RCN, en partenariat avec la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités 54 et l'Agence régionale de santé Grand Est, présente 20 ans de la loi handicap, quel bilan ?
Eh bien bonjour à tous, émission spéciale sur RCN aujourd'hui depuis la préfecture. Cette journée, on le rappelle, est organisée à l'occasion des 20 ans de la loi handicap. Pour cette deuxième table ronde, on va aborder la thématique de l'handicap et de l'éducation. Alors beaucoup de monde autour de la table. Alors déjà pour commencer, je vais revenir sur des chiffres que j'ai trouvés ce matin. Environ 520 000 enfants en situation de handicap étaient scolarisés en octobre 2020. En 2005, donc au moment de l'apparition de la loi, eh bien c'était 130 000. Vous évoquiez les AEHS tout à l'heure. Effectivement, c'est un nombre aussi qui a augmenté de 90% depuis 2013. Et donc, en 2024, on était à 140 000. Et puis, voilà, il y a plusieurs dispositifs de scolarisation qui ont été adaptés, qui ont été déployés sur le territoire. Et puis, les universités aussi, elles ont multiplié par 9 le nombre de leurs étudiants en situation de handicap. Donc, on est passé de 7500 en 2005 à 64500 à la rentrée 2024. Olivier Maillette, je vais commencer avec vous, justement sur ces 20 dernières années de votre fenêtre. Quel bilan est-ce que vous faites ? Comment a évolué l'école inclusive sur notre département ?
Alors, le département, il s'inscrit dans une politique nationale, hein, évidemment. Et donc, les choses ont été à peu près similaires sur tout le territoire, avec évidemment toujours des particularités locales, ça s'entend. Alors, pour ce qui est de notre département, on est parti comme tout le monde. Hein. Monsieur le sous-préfet disait que quand il était petit, il n'y avait pas d'enfant handicapé dans sa classe. Moi, il y en a eu un quand j'étais petit, et puis un jour, il n'était plus dans la classe. On ne nous a jamais expliqué ce qu'il avait. D'où, voilà, on le voyait des fois dormir sous le bureau du maître, alors on se demandait ce qu'il faisait. Et puis un jour, il a disparu et on ne nous a jamais rien dit. Où il était, pourquoi, quand, en cours d'année, on n'a rien compris. Et ça se passait comme ça. Alors on part de très très loin. Et puis depuis les 20 dernières années, en fait, c'est une transformation profonde et énorme pour l'éducation nationale. L'effort, il est quantitatif, il a été énorme au niveau quantitatif, vous l'avez dit, hein, on était aux alentours de 100 000, on est maintenant aux alentours de 600 000 enfants en situation de handicap scolarisés. On a créé au départ ce qui était les auxiliaires de vie scolaire qui sont devenus, qui ont changé de nom souvent, qui sont devenus aujourd'hui les AESH, hein, les accompagnants aux élèves en situation de handicap, et c'est aujourd'hui 130 000 personnes, hein, donc on a créé un corps entier de personnel qui est aujourd'hui le second corps de métier dans l'éducation nationale après les professeurs eux-mêmes. Et donc, on a eu un bouleversement quantitatif qui est incroyable. On est parti de zéro, hein, quasiment, puisque l'éducation spécialisée, elle était là pour justement s'occuper de tous les autres enfants dont l'éducation nationale ne s'occupait pas. Aujourd'hui, tous les enfants de la République ont un lien avec l'éducation nationale, et même un lien qui s'est symbolisé récemment par le fait que tous les enfants ont un identifiant éducation nationale, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, ça peut paraître anecdotique comme ça, mais vous et moi, quand on a passé le brevet des collèges ou le baccalauréat, on avait un numéro qui nous a suivis pendant toute notre scolarité. Eh bien, des enfants de la République n'avaient pas ce numéro-là, n'existaient pas pour l'éducation nationale, en tout cas de ce point de vue-là. Après, on part de très loin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire encore. On améliore sans cesse, on est parti de rien, on a expérimenté beaucoup. Hein. En vérité, on a cheminé avec tout le monde, on a cheminé avec les professeurs eux-mêmes, avec des cohortes d'AESH, encore une fois. On a compris les besoins au fur et à mesure sur le terrain. Et donc, il y a énormément de choses à faire, énormément de choses qui se font. Et on parlait de travail en cours, de work in progress, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé, alors il se trouve que j'ai passé ma spécialisation en 2005, moi. Donc, j'ai étudié la loi de 2005 alors qu'elle allait arriver. Je me suis dit, waouh, ce qui va arriver dans les écoles, ça va être, et il faut le dire, c'est une révolution. Et pour autant, voilà, il y a un chemin fou qui a été fait. Et en même temps, on n'arrête pas d'avancer. Enfin, moi, quand j'ai commencé, on parlait d'intégration scolaire. On est passé au concept d'inclusion. Puis on est passé à l'éducation inclusive plutôt que l'école inclusive. Aujourd'hui, on parle d'école pour tous. Même si on hésite à appeler l'inspecteur inspecteur EPT, parce que ça fait bizarre quand même. Mais on en est là aujourd'hui. On avance avec l'ambition, effectivement, d'être moins en moins sur les besoins particuliers de chacun des catégories qu'on a créées pour aller vers quelque chose dont on a parlé tout à l'heure rapidement, mais qui est essentiel pour nous. C'est la conception universelle des apprentissages, c'est-à-dire l'accessibilité pour tous dès le départ, avec une pédagogie, des didactiques, Et tout un, finalement, toute une philosophie qui est tournée vers l'ensemble des particularités qu'on partage tous, hein, et vous et moi, et pour sortir des catégorisations, simplement, il faut accompagner les personnels. On parlait de formation. Moi, je ne crois pas qu'on va réussir à former les 1 100 000 profs à tous les types de handicap quand moi, j'ai mis plus de 30 ans à comprendre un type de handicap pour lequel je suis hyper spécialisé. Donc, mais par contre, sensibiliser tout le monde, évidemment, c'est l'ambition qu'on doit avoir. Et aujourd'hui, la question, elle est beaucoup plus sur non seulement, évidemment, compenser, aider les élèves hein, eux-mêmes, mais beaucoup, beaucoup aujourd'hui, c'est être personne ressource, avoir des gens qui viennent épauler les enseignants, qui ne peuvent pas avoir toutes les compétences, qui viennent en nombre pour leur permettre de réussir au mieux l'accueil de tout, de toutes les personnes différentes, hein, c'est, finalement c'est ça, de toutes les particularités humaines. Et pour ça, on a besoin des spécialistes, de l'expertise, des gens du médico-social, du sanitaire. Et c'est vraiment maintenant l'ouverture qu'on fait, c'est... La question n'est plus de savoir qui fait quoi dans son coin, mais bien comment on le fait tous ensemble au service voilà, d'une histoire, d'un parcours, on l'a dit tout à l'heure, d'un gamin qui va à l'école.
Oui, parce qu'il y a finalement autant d'handicaps que de personnes en situation de handicap, donc l'enjeu c'est vraiment de faire des accompagnements individualisés pour chacun.
Oui, complètement, c'est-à-dire qu'on veut sortir de l'enfant générique, c'est-à-dire dire d'un enfant qu'il est, comme on le disait il y a 20 ans, autiste, et puis à partir de là se dire pour les autistes il faut ça. Non, en fait, tous les enfants TND sont pas comme ça. Tous les enfants TSA, c'est un spectre. Ils ont des besoins différents. Et puis surtout, maintenant, on essaye de penser qu'est-ce que fait cet enfant-là, dans cette école-là, avec ces enfants-là, les autres, avec ces locaux-là et avec ces enseignants-là, dans une équipe, dans une petite école, une grande école, et d'aller en fait au plus près des besoins qui sont réels et pas imaginés par catégorie.
Et vous disiez, il y a encore beaucoup à faire. Si on devait citer un exemple de choses aujourd'hui à faire qui vous paraît essentiel.
Alors, il y en a plusieurs, hein, évidemment. Quand même, la question de la prévention. Moi, ça me semble effectivement extrêmement important. C'est-à-dire, comment on peut non plus réfléchir toujours sur des situations où l'école est en souffrance, l'enfant est en souffrance, les parents sont battus dans tous les sens du terme avec l'éducation nationale pour réussir. Comment on peut sortir de situations comme ça pour aller vers beaucoup plus de prévention avec tout de suite une évaluation des besoins qui soit plus juste et un déblocage des besoins qui soit très réactif. Je vais vous donner un exemple très simple. Hein. Ce qui est le plus difficile dans les écoles à cette heure, c'est l'inclusion des enfants qui ont des difficultés, présentent des difficultés de comportement, qu'elles soient parce qu'ils font partie des troubles du spectre autistique ou parce que, et on parle beaucoup de santé mentale, ils ont des troubles psychiques. Pour avoir enfin une AESH, il va falloir constituer un dossier, handicapéiser le gamin, c'est-à-dire vraiment partir sur la maison des personnes handicapées, puis avoir une première évaluation, réunir toutes les pièces, etc. etc. Bon, l'année scolaire, elle est finie. Hein. Et l'année d'après est déjà bien entamée, voire elle aussi en cours d'être finie. Et or, les difficultés, elles sont sur le moment, donc il faut aider les enseignants et les familles tout de suite en prévention. Et donc, c'est vers là qu'on doit aller. Hein. C'est un chantier, vous m'en avez demandé un, je vous citerai celui-là. Et puis, évidemment, toujours renforcer encore et de mieux en mieux, et ça fait partie de la question de la prévention, la coopération avec le médico-social, le sanitaire, notamment.
Nicolas Leclerc, je me tourne vers vous. On le disait, aujourd'hui, il s'agit d'accompagner les enseignants parce que chaque enseignant ne peut pas être formé à tous les types de handicap. Donc, il y a notamment les AESH hein, qui sont là aussi pour accompagner. Donc, vous êtes directeur de recrutement à l'Académie de Nancy-Metz, donc notamment les AESH. Et vous le disiez, il y a des candidats, mais aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il n'y a pas assez de postes à proposer à ces candidats.
Oui, effectivement, on connaît tous la situation financière de notre pays à l'heure actuelle. Les budgets, par définition, quel que soit le domaine dans lequel on va s'exprimer, ne sont pas infinis. Et forcément, chacun doit faire avec une ressource qui est comptée. Et à l'évidence, je pense que tous les acteurs ici autour de la table seront d'accord avec moi, si on pouvait recruter davantage d'AESH, ce ne serait pas forcément plus mal. Maintenant, on fait comme on peut, du mieux qu'on peut. Madame la ministre a évoqué le chiffre à la rentrée scolaire d'une augmentation de 2000 postes d'AESH au niveau national. M'arrêtez si je dis une bêtise, mon cher collègue. Mais c'est bien ce qui est prévu. Ça peut paraître peu, 2000, mais dans une période où finalement la plupart des décisions vont plutôt vers des baisses d'effectifs, oui. Ne serait-ce qu'un signe d'augmentation, c'est finalement quand même un signal fort. On ne manque pas de candidats ou de candidate ou de candidat d'ailleurs. Si, on manque de candidats pour le coup.
C'est un métier très féminin.
C'est un métier très et peut-être trop féminisé. Alors je ne fais pas de sexisme, je me mets juste à la place simplement des petits garçons en situation de handicap moteur ou autre qui peuvent avoir besoin d'être accompagnés par un homme pour des besoins intimes que vous comprendrez tout aussi bien que moi. Et là, en revanche, oui, on souffre d'un déficit de candidats hommes. Ça, c'est une réalité de tous les jours. Et puis, l'idée aussi de l'éducation nationale qui est de faire, comme vous l'avez dit, un réel corps des AESH, une professionnalisation, sous-entend aussi des exigences en termes de diplôme, en termes de qualification de compétences qui va croissant. Avec un statut et une reconnaissance salariale, entre autres, qui parfois n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait tous. Voilà, donc il y a une vraie difficulté sur ce point de vue-là, et je passe beaucoup de mon temps lors des différents forums, des informations collectives que je peux faire auprès des demandeurs d'emploi, essayer de valoriser ce métier sous ses différents aspects, à essayer d'expliquer comment on peut le combiner avec la fonction d'animateur périscolaire pour atteindre un 35 heures, ou comment on peut soi-même faire l'économie du périscolaire pour ses propres enfants. Enfin voilà, en essayant quand même de montrer l'aspect positif. Pour
oui, parce que vous dites valoriser le métier, parce qu'il y a aussi des points peut-être qui peuvent un peu bloquer.
L'attractivité du métier, ouais. C'est évident, elle est d'abord, c'est d'abord une question financière, on ne va pas se le cacher. Le sens, ce n'est pas un sujet, à contrario. Quelqu'un qui choisit d'être AESH ne se pose pas la question de pourquoi elle se lève le matin. Ça, c'est un métier qui a du sens, par définition, j'ai envie de dire. Et a fortiori, quand l'AESH fait le bilan à la fin de l'année des progrès effectués par l'élève ou les élèves, quand on parle d'AESH mutualisé, qu'il ou elle a suivi tout au long de l'année, je pense que la question du sens et de la plus-value apportée à la société, elle est évidente. A contrario, faut quand même se nourrir à la fin du mois, et c'est là que parfois le bât blesse, et que j'essaye, à mon petit niveau, mais comme tous mes collègues de France et de Navarre, de valoriser et d'essayer de rendre ce métier plus attractif, au moins sur cet aspect purement matériel.
Et vous le disiez, aujourd'hui, vous avez aussi tendance à augmenter les exigences en termes de compétences quand vous recrutez des AESH. Pourquoi ?
Déjà parce que l'objectif, c'est de pouvoir accompagner des élèves jusqu'au baccalauréat, et y compris dans la compréhension des cours, ou dans la reformulation, ou dans l'application des consignes que l'enseignant va donner. Donc forcément, il faut un niveau académique minimum, et ou des diplômes spécifiques. Alors je ne vais pas vous faire la liste, parce que de tête, il doit y en avoir une quarantaine qui sont reconnus pour pouvoir prétendre au métier d'AESH, mais dans le domaine de l'accompagnement éducatif ou médico-social, de mémoire. Voilà, donc c'est pas non plus, on ne demande pas des choses mirobolantes, on est bien d'accord, mais il y a eu un vrai changement de portage avec le métier d'AVS que mon collègue a évoqué juste avant, où on était vraiment sur quelque chose de totalement différent, à la fois sur le recrutement et sur les missions, et y compris finalement là aussi dans la professionnalisation du métier. Aujourd'hui, le métier d'AESH est un métier au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on va proposer un CDD de 3 ans, et si la personne se plaît et que le travail est bien fait, on va rapidement passer sous CDI. Alors ça peut paraître banal quand on le dit comme ça, mais dans la fonction publique, c'est pas forcément quelque chose qui est si automatique que ça, et ça renforce grandement l'attractivité du métier d'AESH. C'est pas suffisant, parce qu'il y a encore plein de choses à faire pour l'évolution de ce statut-là, mais c'est déjà des progrès qui ont été faits par l'institution qui vont dans le bon sens. Voilà. Et là, pour le coup, je me permets de le dire, à la fois en tant que recruteur et en tant que papa. Parce que, il y a aussi cet aspect-là.
On peut rebondir dessus, effectivement, vous avez aussi...
On l'a évoqué, et mon collègue l'a évoqué, le métier de parent d'enfant en situation de handicap, c'est souvent un combat avec ou contre l'éducation nationale parfois, et malheureusement, de moins en moins, et ça c'est très bien. Malgré tout, c'est pas toujours simple, et il faut quand même reconnaître les avancées qui se font. Encore une fois, elles se font au rythme où elles se font. Faut quand même, je reviens toujours sur ce nerf de la guerre, mais il faut être conscient quand même de la situation de notre pays et pas avoir non plus des exigences qui soient coupées de la réalité, parce qu'à un moment c'est pas possible. Donc les avancées, elles arrivent. La prise en compte du handicap dans les écoles, elle est de plus en plus prégnante. Vous avez rappelé les propos de monsieur le sous-préfet, je suis entièrement d'accord. Quand nous, on était gamins, il n'y avait pas d'enfants en situation de handicap. J'ai fait une intervention en tant que président de club handisport auprès d'une cohorte du SNU, pas plus tard qu'il y a 10 jours, et je leur ai dit, vous êtes les premiers, c'est des élèves de seconde, vous êtes la première génération à avoir vécu toutes vos scolarités avec des enfants en situation de handicap dans votre entourage, et vous serez la première génération de professionnels du marché du travail à arriver avec cette culture et cette habitude-là. Vous ne vous poserez pas les questions métaphysiques, si vous me passez l'expression, que nous, on se pose quand on est en présence d'un collaborateur en situation de handicap et où on ne sait pas trop comment l'aborder, comment lui parler, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Il ne se pose pas la question. Et je me suis amusé à mettre un petit jeune de 15 ans en situation. Je dis, voilà, vous êtes chef d'équipe, vous devez accueillir un collaborateur en situation de handicap. Mais il a eu des réponses très naturelles et tout à fait justes. Et ça, c'est vraiment une preuve que cette politique inclusive qui a été mise en place depuis 20 ans, elle fonctionne. Elle fonctionne en tout cas dans la transformation de la société. Et finalement, c'est quand même ça, le but recherché, je pense. C'est que ça devienne naturel, que ça ne soit plus un sujet, qu'on ne parle plus de société inclusive, comme l'a dit, je crois, madame la vice-présidente du conseil départemental, mais de société tout court. Alors, elle a également souligné, effectivement, le fait que nos enseignants, aujourd'hui, ne sont pas assez sensibilisés, pas assez formés. Mais vous l'avez dit, il y a 1 100 000 enseignants dans ce pays. On ne peut pas tout faire en une seule fois. Ça va se faire petit à petit. Il y en a une très grande majorité qui est de très bonne volonté, mais à un moment, ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend, et petit à petit, on y arrive. La création dans chaque académie d'écoles de la formation continue, par exemple, participe aussi. Alors, c'est des structures qui ont vocation à former les enseignants sur l'ensemble de leurs compétences, mais entre autres, sur ce domaine-là, et ça aussi, ça participe de la volonté de l'éducation nationale à amener le champ du handicap dans la formation continue et professionnelle des enseignants tout au long de leur carrière. Voilà.
Vous avez une fille qui est scolarisée, qui a 10 ans, donc qui rentre en 6e
à la rentrée. À la rentrée de septembre.
Comment ça se passe pour elle? Quels sont les freins aujourd'hui dans le cadre de sa scolarité et sur lesquels voilà, on peut envisager des axes d'amélioration?
Clairement, aujourd'hui, les freins... Alors, je parle bien, encore une fois, d'un handicap spécifique et je ne veux pas faire de généralité, mais dans son cas particulier, elle est donc c'est un handicap moteur, c'est fauteuil roulant. Le frein matériel peut être levé assez rapidement, elle est en général, de par la bonne volonté des collectivités territoriales, que ce soit les municipalités dans l'élémentaire, dans le primaire, ou le département, la région dans le secondaire. La vraie difficulté, effectivement, elle va être dans... la capacité, la connaissance des enseignants à pouvoir adapter leur contenu pédagogique en fonction des besoins des enfants. Et encore une fois, loin de moi l'idée de jeter la pierre aux enseignants. La maman de ma fille est enseignante elle-même, donc il serait quand même assez malvenu que je jette la pierre au corps enseignant dans ce domaine-là. Mais voilà, force est de constater que, oui, il y a eu des décisions qui ont été prises il y a 20 ans, et puis après, il faut le temps de former. Plus d'un million d'enseignants, ça prend du temps et on ne peut pas tout faire en même temps. Mais aujourd'hui, la principale difficulté, finalement, elle est là. Parce que quand bien même l'enseignant sera de bonne volonté, et pour l'avoir vécu, souvent on lui propose des solutions qu'il est très content de pouvoir mettre en œuvre, mais qu'il n'a pas eu l'opportunité d'imaginer parce qu'il a une méconnaissance des besoins. Malgré tout ce qui est mis en place, malgré l'accompagnement, en l'occurrence, d'une éducatrice spécialisée, malgré l'accompagnement des structures médico-sociales, malgré les enseignants référents, malgré tout ce qu'on veut. Voilà. Un petit peu comme pour le parcours de soins tout à l'heure, le parent reste quand même à une fonction de coordonnateur du parcours scolaire de son enfant, ce qui n'est pas toujours simple. Et encore, je nous considère comme chanceux. La MDPH a répondu à toutes les sollicitations qu'on a pu faire, donc je vous remercie, même si vous l'avez fait dans un cadre tout à fait normal, mais quand même. Et puis on a la chance d'avoir une AESH en or massif, c'est la même depuis un petit moment, et ça, mine de rien, pour un enfant, c'est quand même extraordinaire.
Justement, vous parlez de la MDPH, donc je vais vous passer la parole, Stéphane Ducine. Vous, qu'est-ce que vous faites comme bilan, là, au bout de 20 ans, côté MDPH? Quelle est votre action et comment est-ce qu'elle a évolué dans le cadre de cette loi?
Alors, bonjour à tous. Oui, je peux parler effectivement un petit peu de la loi parce que j'y étais en 2006 lors de la mise en place. Ce qu'on peut dire déjà sur cette loi, c'est qu'effectivement, on n'est pas sur une simple évolution. Donc, on est plutôt sur une révolution des pratiques et des concepts, ce qui fait que c'est 20 ans après qu'on commence à mesurer ce que ça produit parce qu'effectivement, les changements étaient importants. Le premier changement, il est massif en termes de concept. C'est la première fois qu'on parle de handicap. Jusqu'ici, on parlait d'éducation spécialisés. On ne parlait pas d'AESH, hein, on parlait d'accompagnement à la vie scolaire. Donc le mot handicap était tu, quelque part. Et les parents qui faisaient des demandes à la CDES, et il y avait des prestations dans lesquelles il n'y avait pas forcément le mot handicap, ou même les logos, il n'y avait pas du tout de logo handicap. Donc c'est la première chose, et c'est ce qui explique en partie le succès aujourd'hui de cette reconnaissance-là, et le fait qu'on a des chiffres exponentiels sur les élèves en situation de handicap, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est démystifié, ça n'est plus tu. Première chose. Deuxième chose, c'est des concepts qui ont déjà été bien développés là. Cette loi-là, elle dit, la première chose, elle dit accessibilité. C'est le concept principal et ça rejoint ce qu'on dit sur l'école pour tous, c'est que c'est la société dans son entièreté qui doit pouvoir accueillir tout le monde en prenant en compte la différence que peut montrer chacun. Donc c'est cet aspect-là finalement qui était le plus novateur sur lequel on a avancé lentement mais sûrement. Et effectivement, aujourd'hui encore, on progresse beaucoup. On parle de plus en plus, par exemple, de dispositifs. On parle de ressources locales à disposition des professionnels. On parle de décloisonnement. Et ça, c'est de l'accessibilité. Donc ce concept-là, je trouve qu'aujourd'hui, il prend toute sa place. En 2006, c'était un concept assez théorique qui met beaucoup de temps à s'imposer. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce champ-là. Et le dernier concept, c'était le concept de la compensation. C'est-à-dire, si l'accessibilité ne fonctionne pas, ben on va avoir des compensations individuelles. Et c'est là que la MDPH, elle fait son apparition, la Maison départementale des personnes handicapées. Elle est chargée, si l'accessibilité n'est pas en rendez-vous, de proposer des réponses adaptées à chacun par des prestations individuelles. Donc effectivement, sur le champ scolaire, on a parlé des aides humaines, mais je tiens à dire, bien entendu, que c'est une réponse massive, mais ça n'est pas la seule réponse, et ça n'est pas la réponse la plus accessible. Au contraire, l'aide humaine, c'est plutôt le dernier recours, à mon sens. L'enjeu, c'est que l'enfant soit accueilli dans une classe qui sait trouver les ressources locales, qui sait adapter son contenu pédagogique à l'enfant, sans forcément avoir à passer par... on pourra parler du formulaire de demande de l'MDPH, si vous voulez. Il est sympathique, il fait 20 pages.
Les démarches sont toujours assez longues.
Tout à fait. Ouais, on parlait beaucoup du parcours du combattant, ouais. Au moment de la mise en œuvre de la loi. C'est quelque chose qu'on entend encore aujourd'hui. Donc on sait... Aujourd'hui, si vous me posez la question des difficultés, c'est encore une difficulté aujourd'hui, le fait que pour passer par la case compensation et donc la MDPH, il faut effectivement se justifier, un certificat médical, etc., etc., trouver un médecin pas simple, etc. Donc c'est quelque chose c'est un levier de progrès important, la simplification de ces démarches administratives.
Oui, il y a cette volonté aujourd'hui de simplifier. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable à court terme?
Alors là, j'ai un petit sourire en coin. Bien sûr que c'est possible. L'expérience nous a montré que ça marche pas toujours. J'ai fait partie, il y a quelques années, du groupe de travail national qui a travaillé déjà sur une simplification du précédent formulaire de sollicitation des MDPH. On avait un formulaire à l'époque qui faisait 8 pages, et ce groupe de simplification a réussi à produire un formulaire de 20 pages. On peut avoir un résultat qui n'est pas forcément conforme aux objectifs de départ. Pour autant, bien sûr, c'est possible, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les enfants, mais surtout pour les adultes. On parle par exemple de droits sans limitation de durée. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe. Ça n'existait pas pour la plupart des prestations il y a 5-6 ans. Donc ça, c'est quelque chose de simple qui simplifie grandement le parcours du combattant, par exemple. C'est un des axes d'amélioration, mais on peut aussi simplifier beaucoup de choses. Quand vous êtes sur je ne veux pas trop déflorer les sujets cet après-midi, mais quand vous êtes sur un sujet d'insertion professionnelle, d'autres prestations peuvent reconnaître la qualité de travailleurs handicapés sans forcément passer par la MDPH. Si vous avez une pension d'invalidité, ça reconnaît aussi le statut de difficulté lié à l'emploi. Donc il y a effectivement encore beaucoup de choses à faire du côté de la simplification, mais au-delà de ça, ce qui est surtout important à mon sens, c'est que cette compensation-là, elle doit tendre à s'amenuiser, à diminuer au fur et à mesure que l'accessibilité augmente. C'est beaucoup plus simple pour un enfant d'avoir tout de suite dans la classe quelqu'un qui peut, même s'il a besoin d'un petit peu d'aide humaine, intervenir sans passer par la case MDPH que de passer par cette case-là. Et c'est dans les projets, dans les dispositifs. On peut parler de plateformes d'accompagnement à la scolarité. qui va permettre à la scolarisation, qui va permettre, qui va être expérimenté et qui permettra demain à l'élève déjà dans le nord du département à la rentrée de pouvoir bénéficier d'un certain niveau de ressources qui peuvent être proches du médico-social ou du médico-social sans passer par la MDPH. L'intérêt, il est là, à mon sens, c'est de développer encore l'accessibilité pour amenuiser petit à petit les compensations.
Et à ce jour, vous accompagnez combien d'enfants à la MDPH dans ce cadre ?
La MDPH, de façon générale, il y a plus de 55 000 personnes qui ont des droits en cours, et vous avez à peu près 20% des demandes et des situations qui concernent les enfants. Donc vous faites le calcul, hein, il y a à peu près 10 000, 11 000 enfants qui aujourd'hui ont au moins un droit à la MDPH, scolarisation, mais ça peut être aussi par exemple des cartes mobilité, inclusion. Ce qui caractérise la MDPH, malheureusement quelque part, c'est le flux et la tendance à l'augmentation des flux de demandes. C'est intéressant parce que ça veut dire que notre société, elle reconnaît le handicap, mais ça veut dire aussi qu'il faut être en capacité de gérer et d'apporter les réponses qui vont derrière. Une fois que la MDPH, elle a pu décider d'un besoin, par exemple, d'aide humaine, il peut y avoir aussi un sujet pour que cette aide humaine soit mise en œuvre, financée, recrutée par l'éducation nationale. Il peut y avoir un petit peu de friction entre une décision et la mise en œuvre de cette décision.
Je vais à présent passer la parole à Laurette Claude. Alors vous êtes venue parler, nous présenter le dispositif EMASCO. Oui. Alors racontez-nous en quoi ça consiste.
Alors c'est un dispositif porté par l'AEIM qui a été créé en 2019 sur le département de la Meurthe-et-Moselle. Donc on a été un des premiers départements à déployer l'équipe mobile. Le but, c'est d'aller soutenir les équipes enseignantes quand elles ont dans leurs effectifs des élèves en situation de handicap, au sens très large du terme, reconnus ou non par avec un dossier MDPH ou non d'ouvert. Le but, c'est vraiment d'apporter une expertise médico-sociale au sein de la classe en leur prodiguant des conseils, des outils à utiliser, des postures. Le but, c'est vraiment ça, d'amener de la pratique médico-sociale dans leur quotidien, en prenant évidemment en compte aussi la réalité de leur classe, qui, voilà, c'est pas toujours évident de combiner les deux.
Alors comment se fait le lien justement entre l'éducation nationale et vous, qui va vers l'autre finalement ?
Alors c'est vraiment les équipes enseignantes qui nous saisissent, qui nous font part de leurs difficultés. On a une commission toutes les semaines, donc le but c'est d'être assez réactif. Hein. On a affaire à des équipes qui sont en souffrance, qui bien souvent ont attendu un petit peu un point de non-retour pour nous saisir. Donc le but c'est d'être réactif. On a des commissions toutes les semaines, donc une commission qui est co-animée avec l'éducation nationale et moi-même, où on reçoit les fiches de saisine, puisqu'on fonctionne avec un formulaire de saisine qui est rempli par l'équipe concernée, ou ça peut aussi être la communauté éducative, donc un périscolaire. On intervient aussi en dehors des murs de l'école, puisque l'élève qui est en difficulté, ses difficultés, il ne les a pas déposées avec son sac à l'entrée de la cantine, mais bien souvent, c'est aussi des temps très complexes. Donc on va aussi sur ces temps-là. On fait aussi des actions de sensibilisation. Donc, toute cette année 2024-2025, on est intervenu auprès des collègues animateurs des périscolaires et ATSEM, puisque ce sont aussi des précieux collaborateurs qui, des fois, ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Et donc, le but, c'est de se poser la question, cet élève, de quoi il a besoin ? Il faut vraiment remettre la notion de besoin au centre de notre action. Et puis aussi être à l'écoute des équipes qui, comme j'ai dit tout à l'heure, sont en souffrance. Leur dire qu'elles font bien les choses aussi, parce que ce n'est pas souvent dit. Déjà, on a déjà bien travaillé quand on a fait ça.
Voilà. Et on a la possibilité d'avoir un exemple très concret, oui. Car on a avec nous une enseignante. Donc, vous avez sollicité le dispositif. Pourquoi et comment s'est fait la mise en relation entre vous et EMASCO ?
Alors, comme le dit Madame Claude, effectivement, nous, on n'a peut-être pas attendu la dernière minute, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu un effet panique quand l'enfant arrive, qu'il y a plein de choses qu'on n'arrive absolument pas à gérer. Donc, moi, j'avais deux collègues qui étaient vraiment très en souffrance avec des enfants, TSA, niveau 3 au moins, je pense. Et c'était vraiment compliqué. Moi, ça m'a permis aussi... c'était très très bien d'avoir un regard extérieur. Ça nous a permis vraiment de relativiser les choses, c'est-à-dire que mes collègues, je dis mes collègues parce que moi je suis déchargée, donc j'ai la chance de plus avoir d'élèves dans la classe, mais mes collègues sont souvent... ils veulent bien faire, quoi. Et donc, à chaque fois, ils se retrouvent, ils me disent « mais là, j'y arrive pas, mais là, je sais pas, mais là, je comprends pas, là, je... » et voilà.
Très concrètement, c'est sur quoi que vos collègues avaient besoin d'aide ?
Alors, au niveau des connaissances, hein, clairement, comme tout le monde l'a dit depuis le début, en fait, chaque enfant en situation de handicap est différent. Et donc, ça, nous, on n'est pas capable d'avoir les connaissances sur tous les handicaps. Et aussi, par exemple, des trucs pratico-pratiques. On a mis en place un corridor actif dans le couloir. Donc, ça m'a permis, par exemple, d'avoir aussi un appui au niveau de la commune. J'ai pu expliquer au niveau de la commune, parce que c'est pas toujours facile quand on se retrouve en conseil municipal, de dire dans mon école il me faut des cabanes, il me faut des casques, il me faut c'est pas, voilà. Et là, ça m'a permis d'avoir au moins l'apport théorique et de pouvoir le faire. Et vraiment, il y a eu, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était cette bienveillance et vraiment se empêcher ce jugement de valeur. Enfin, on a toujours l'impression qu'on ne fait pas bien. Et en fait, là, voilà, je pense qu'ils nous ont vraiment beaucoup rassurés. Et ça a permis de tenir toute l'année aussi. Oui. Ouais.
Et chez Emasco, vous avez fait combien d'interventions, du coup, là, sur l'année scolaire ? Vous avez quelques chiffres ?
Oui, on est à 65 interventions pour cette année. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est, du coup, sur le département. Donc, il y a beaucoup de trajets aussi, en lien avec la géographie de notre beau département. Donc, on est une équipe très mobile. Et on intervient de la maternelle au lycée. Donc, au lycée, c'est quand même des situations qui sont assez rares. On n'en a pas beaucoup. Cette année, on n'en a pas une seule. Par contre, on a énormément de demandes sur la maternelle, notamment des petites et moyennes sections. Donc là où il y a vraiment aussi la difficulté du vivre ensemble, hein, qui se croise aussi avec des troubles. Et les enseignants sont vraiment en difficulté face à des comportements qu'ils ne comprennent absolument pas. Et ils sont désœuvrés. Et bien souvent aussi, à cet âge-là, il n'y a encore pas de dossier de montée auprès de la MDPH. Donc il n'y a encore pas d'accompagnement. Je tiens à préciser quand même que demander un accompagnement et avoir un accompagnement, c'est une solution qui est très... facilitante et très rapidement efficace. Il faut juste pas que ça devienne quelque chose d'automatique, parce que l'enseignant reste garant aussi de la scolarité de l'élève. Et bien souvent, on a trop de situations où c'est l'AESH qui prend en charge uniquement l'enfant, sans regard non plus de l'enseignant, et notamment sur l'aspect pédagogique. Donc il faut être assez vigilant par rapport à ça. Ça peut être très facilitant, mais ça doit pas non plus être une réponse systématique. Il y a d'autres choses à faire avant.
Et puis avant d'aller à l'école, pour certains enfants, il y a le passage à la crèche. Alors je vais passer la parole à Carole Crissement. Donc vous êtes présidente du collectif Crèche Associative du Grand Est. À vous, quelles sont vos missions très concrètement au sein de ce collectif ?
Alors, comme le disait mon collègue de MDPH, nous dans la loi, on a l'obligation d'accueillir des enfants. Alors nous, on n'est pas handicapés, parce que il n'y a pas de détection, il n'y a pas quelque chose. On les appelle les enfants différents. Et moi, je trouve, alors ça a été dit tout ce matin, c'est la transversalité, c'est se connaître. Il y a plein de choses qui existent en France, mais ce n'est pas toujours mis en adéquation avec les acteurs. Nous, on a déjà, du fait de notre professionnalisation sur l'accueil du jeune enfant, on détecte les enfants qui ont des troubles. Nous, on n'est pas médecin, donc on se dit y a un problème de comportement, il y a un problème psychomoteur, il y a quelque chose. Et après, notre première porte d'entrée, c'est la famille. Et là, c'est déjà dire aux parents, écoutez, votre enfant, je suis pas médecin, mais quelque part, il y a quelque chose. Donc, on a un gros accompagnement. Alors, si la famille accepte cet accompagnement, on a après le problème du médecin. Parce qu'on envoie la famille chez le médecin. Alors, on fait toujours des rapports, les faits, tel jour, telle heure, ce qui nous a posé question, comment ça s'est passé, pourquoi il a fait ça, c'est pas notre rôle non plus. Donc, on fait que les faits. Et la vie est faite de telle façon qu'un médecin a, je sais pas, au moins 6 patients dans l'heure. Et que la famille n'est pas non plus très, 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 très apte à se dire que son enfant parfait n'est pas un enfant parfait et a peut-être un handicap. Oui. Donc déjà, la famille est quand même en frein. Oui. Et le médecin qui voit beaucoup de patients se dit « bon non, il va bien ». Donc après, toutes les crèches associatives se sont retournées vers l'éducation nationale en se disant il faut qu'on aide à ce que l'enfant soit détecté plus tôt. Et là, on a un vrai rôle. Donc, on a de plus en plus de partenariats avec les écoles maternelles. Et donc, on dit, alors quand on est bien avec la directrice, parce que des fois, c'est un peu mal pris. Donc, on dit à la directrice, cet enfant-là nous pose problème. Et on lui ramène, en fait, le même catalogue qu'on fait au médecin et on lui donne avec l'accord des parents. Ne l'oublions pas non plus. Donc, après, c'est tout ce qu'on a dit ce matin. C'est comment on se connaît. Je connaissais pas la MDPH. Alors, si, je connaissais l'entité, mais je connaissais pas monsieur, mais je vais prendre ses coordonnées. Donc, plus on avance de concert et en commun, et plus on a de chances qu'un enfant est détecté tôt. Si on a un enfant qui est détecté tôt, il est moins en souffrance. Et là, on a tous autour de la table, et depuis ce matin, notre rôle à jouer, et c'est hyper important. Moi, je me bats vraiment au niveau national pour que on ait de plus en plus, qu'on soit un acteur aussi dans la détection. Même si on n'est pas médecin, on a quand même fait des études pour avoir la psychologie de l'enfant. Et on est un peu, je ne dis pas les seuls, mais on est vraiment dans notre rôle social. On est quand même des éducateurs sociaux.
Oui, donc justement, pour cette question de la détection, est-ce que depuis l'apparition de cette loi, est-ce qu'à ce niveau-là, votre formation, la formation dans les crèches a changé ?
Alors, elle n'a pas changé du tout. Et on était déjà porteur de ça avant. Mais on l'a... alors, nous, sur le Grand Est, on l'a beaucoup plus institutionnalisé. Donc, on est beaucoup plus proactif avec l'Éducation nationale, où on a vu un vrai ressentiment de nous accepter. Et après, c'est comme tout à chacun... je connais bien la UIM, donc évidemment, on va se tourner vers les gens qu'on connaît. C'est le contact humain, en fait. Il y a tellement de dispositifs, il y en a que je ne connaissais pas ce matin, dont j'ai pris les cartes. Mais plus on se connaît, plus on avance de concert avec nos spécificités propres. Donc, on est tous porteurs de ce problème. Je dirais pas un problème parce que je sais pas comment le qualifier, ce mot, mais on est tous porteurs de ça et on doit tous avancer ensemble avec nos spécificités.
Et justement, vous disiez que parfois les parents ne sont pas toujours réceptifs quand on pointe un potentiel, quand vous détectez peut-être quelque chose. Est-ce que du coup il y a aussi cet enjeu plus général de sensibiliser la société au handicap et à son rapport au handicap?
Alors nous, on est de plus en plus formés sur le rapport aux parents, en fait. On ne peut pas se former sur la partie médicale, mais on se forme sur la façon d'appréhender le parent, lui expliquer, etc. Donc ça, c'est un gros travail. Et c'est toujours très délicat parce que un enfant a son enfant. Des fois, c'est souvent le premier quand même, je trouve. Et on lui explique que son enfant n'est pas l'enfant... rêvé, qu'il avait pensé, qu'il ne se développe pas tout à fait comme les autres, qu'on a un problème, alors des fois de comportement, mais des fois psychomoteur, des fois de plein de choses, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse comme au Canada, où ils ont, ils appellent ça évaluation, et en France, ça fait très très peur, mais faire des observations à des moments bien précis de la vie de l'enfant, pour déjà un peu banaliser son parcours. Et ils font sur les trois... Alors, ils vont jusqu'à 4 ans, la crèche, au Canada. Sur 4 ans, ils font 3... Alors, bon, j'ai le mot grossier. 3 évaluations à des jours bien précis. Il y a les 9 mois de l'enfant, il y a les 18 mois et il y a le départ à l'école. Et en fait, avec ce dossier-là, alors c'est une échelle mathématique, à acquis, à pas acquis, etc., avec des points. Un enfant n'évolue pas de façon linéaire, donc il peut récupérer. C'est pas parce que il a une mauvaise note entre guillemets sur un champ, par exemple psychomotricité, qu'il va pas récupérer. Donc faisons confiance à l'enfant, mais aussi faisons confiance aussi à l'équipe qui peut mettre en place des choses plus spécifiques pour aider l'enfant à acquérir certaines compétences. Et après, avec ce dossier-là, et moi j'y crois beaucoup parce que c'est tout un village qui élève un enfant, et le donner à l'éducation nationale sans préjuger de quoi que ce soit, il y aurait une continuité éducative, il y aurait un schéma qui serait fait pour l'enfant. Mais alors ça, je pense que j'en ai encore pour 20 ans à le voir arriver, donc je serai en retraite, quoi, peut-être. Voilà, mais c'est quelque chose qui, dans le collectif, qu'on porte vraiment fort, parce que c'est important pour l'enfant, et peut-être que des choses où on mettrait en place quelque chose à la maternelle et qu'on n'attendrait pas que l'enfant arrive au CP, peut-être aiderait l'enfant et peut-être récupérerait des choses. Il y a possibilité. Quoi, moi, je dis toujours, l'espoir est à l'enfant. Donc... je lui fais confiance.
Hélène Stiger, vous êtes directrice donc, du Centre social Jolibois pour l'OHS. Donc, vous accompagnez des familles et donc des enfants en situation de handicap. De quelle manière ?
Alors en fait, pour poser le cadre, un centre social est une structure de droit commun, libre adhésion, implantée sur un territoire bien défini, et notre projet social vise à accompagner les familles et les habitants dans leurs besoins, et donc on les mobilise aussi dans la construction de cette réponse. Donc la question s'est posée au centre social de pouvoir accueillir ces enfants en situation de handicap dans de bonnes conditions et en lien avec leurs parents, en mettant vraiment la famille au cœur du projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas les moyens, nous avons des moyens d'animation, l'équipe est pluridisciplinaire, animateurs, travailleurs sociaux, et donc les actions et projets que nous mettons en place pour ces accompagnements sont souvent portés par une équipe d'animateurs professionnels ou volontaires. Et donc quand nous accueillons un enfant en situation de handicap, il faut pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions. Donc on a décidé, avec le soutien de financeurs, de porter un projet favorisant cet accueil et cette inclusion pour que l'enfant puisse profiter d'activités de loisirs, d'activités culturelles au sein d'une équipe et avec d'autres enfants, et que cet accueil soit bienveillant, inclusif, et ne fasse pas aussi de, on pourrait dire, de dégâts, hein, lorsqu'il est chez nous et qu'il pratique des activités. Donc en fait, nous accueillons la famille pour identifier les besoins, besoins qui ne sont pas toujours traduits, la famille ayant peur qu'on n'accueille pas l'enfant. Déjà, comme on est sur du droit commun, néanmoins, cette famille, en plus, a besoin de répit aussi, souvent, et on est fortement sollicité lors de la fermeture des établissements spécialisés. Donc, on découvre, on travaille avec ce lien social à accueillir l'enfant. Avec l'accord de la famille aussi, nous rentrons en lien avec la communauté éducative, les travailleurs sociaux qui accompagnent les enfants par ailleurs, l'éducation nationale aussi sur notre territoire, et on construit un accueil adapté à l'enfant. Donc une fois que cet accueil est identifié, comment on va le mettre en place, il faut mobiliser les moyens pour. Donc on va former l'équipe d'animateurs au profil de l'enfant, en fait, pour que vraiment l'enfant fasse partie du groupe, comment on adapte l'activité pour qu'il puisse participer, faire la même activité que les autres, comment on forme l'animateur à ne pas avoir peur, hein, de l'accueil de cet enfant et qu'il ne se sente pas démuni aussi, et aussi comment on travaille collectivement avec le groupe d'enfants pour favoriser aussi cet accueil.
En tout cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment individualiser les besoins de chaque enfant et réagir en fonction de chacun.
Oui, tout à fait. Et on mobilise du coup les professionnels de l'OHS de Lorraine pour pouvoir apporter ces connaissances, ces compétences complémentaires. On peut aussi faire appel à des professionnels extérieurs pour pouvoir accueillir l'enfant.
Je vais passer la parole à Al-Mustapha Issoufou. Donc vous, vous représentez l'association Jean-Baptiste Thierry. Pareil, je vais vous laisser expliquer quelle est la vocation de cette association et comment est-ce que vous accompagnez ces enfants aujourd'hui.
Donc bonjour tout le monde. L'association Jean-Baptiste Thierry accompagne des enfants qui sont porteurs de handicap. Donc là, aujourd'hui, je vais intervenir en tant que directeur des unités d'enseignement élémentaire et maternelle. Dans ces unités d'enseignement, nous accompagnons des enfants de 3 à 6 ans dans les unités maternelles et de 6 à 11 ans pour les unités élémentaires. C'est des enfants qui sont porteurs de TSA. Et l'idée de ces unités d'enseignement, c'est de les implanter au sein de l'école. Donc la première a ouvert en 2016 et l'idée c'était de travailler avec une association, donc la Jean-Baptiste Thierry, avec l'éducation nationale et la mairie pour implanter effectivement ces unités au sein de l'école avec une équipe qui est composée d'enseignants et d'éducateurs spécialisés mais avec aussi un plateau technique paramédical qui permet d'accompagner ces enfants au sein de l'école. Donc la première unité a ouvert en 2016 à Villers-les-Nancy. Donc voilà, ce que je disais en préambule, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu de recul. Donc on va plutôt avancer. En tout cas, moi, mon propos aujourd'hui, c'est d'avancer sur les aspects positifs. Parce qu'effectivement, quand on regarde depuis la création de la loi à aujourd'hui, on a passé beaucoup de chemin. Et nous, on a plutôt l'habitude, effectivement, de s'adapter à nos collègues. Parce qu'on travaille dans un environnement avec des enfants qui bouge tout le temps, et la question du parcours individualisé, ça fait longtemps qu'on le travaille. Et donc, du coup, forcément, quand on arrive dans un autre contexte, donc l'éducation nationale avec nos collègues, donc du coup, on s'est adapté aussi. On s'est adapté et au fonctionnement de l'école, parce que c'est des enfants autistes, avec un fonctionnement qui est différent des autres enfants. Je donne un exemple, c'est la question de la récréation, par exemple. Il a fallu travailler avec les autres collègues sur la question de la récréation en disant qu'un enfant autiste, peut-être qu'il faudrait qu'on diffère la récréation, peut-être qu'il faudrait qu'on regarde aussi l'environnement. Et donc on a fait tout ce travail-là. Actuellement, ça va bien.
Oui, c'est intéressant. Vous avez un cas concret sur la récréation à nous raconter sur lequel vous êtes intervenu ?
Je suis intervenu sur la récréation, sur une situation qui me revient d'un jeune qui n'est pas bien sur la période de l'hiver. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup avec des évaluations fonctionnelles, c'est-à-dire on essaie de comprendre pourquoi l'enfant réagit, pourquoi il n'est pas bien. Et cet enfant-là, quand on arrive sur la période de l'hiver, enfin, en tonal, ça ne se passe pas du tout. Enfin, vraiment, c'est un enfant qui développe beaucoup de troubles du comportement. Et l'évaluation nous a montré que dans l'école, il n'y a qu'un seul préau. Et tous les enfants, quand il pleut, tout le monde se retrouve effectivement dans cet endroit-là. Donc ça fait beaucoup de bruit pour lui. Et donc, du coup, il a fallu retravailler, effectivement, et avec la mairie et aussi avec les collègues pour leur dire peut-être qu'il faut différencier la récréation. Parce que lui, il ne supportait pas d'être déjà avec plein d'enfants autour de lui. Et puis, une cour de récréation d'enfants dans une école élémentaire, je vous laisse imaginer, effectivement, le nombre de décibels qu'il peut y avoir. Et donc, voilà, on a travaillé là-dessus. C'est ce qui nous a permis aussi, et pour la famille et pour l'enfant, qu'il puisse continuer aussi une scolarisation. Donc, voilà, nous avons beaucoup travaillé avec nos collègues là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que, quand on regarde un peu depuis la création de cette loi, moi, en tout cas, de ma place, j'ai plutôt l'impression qu'on ne force plus pour être présent. C'est-à-dire, du coup, la question de la présence de ces enfants n'est pas forcément interrogée. Avant, on interrogeait beaucoup, y compris les parents. Et puis, parce que, voilà, ils ne connaissent pas. Ils avaient cette appréhension d'avoir un enfant TSA dans leur classe et dans la classe de leur enfant, avec tout ce qui va avec. Et j'ai plutôt l'impression, parce qu'on participe au conseil de classe, on est plutôt inclus avec la mairie maintenant dans tout ce qui est... là, à titre d'exemple, la mairie de Villers a un projet architectural pour 2026. Et bien, ils nous ont associés dès maintenant sur la partie architecturale, parce qu'on a des enfants qui ont des problématiques sensorielles. Et donc, du coup, on est associés dès maintenant dans le cadre, effectivement, de ce projet-là, en nous posant aussi comment on va faire sur la question du déménagement. Et donc, voilà, on voit bien que, du coup, ça avance, même si on aimerait que ça avance un peu plus vite, mais en tout cas, ça avance.
Ça avance.
Et donc, voilà, dans ces unités-là, donc je reviens sur l'unité maternelle, on accueille 7 enfants. Et sur l'unité élémentaire, nous en accueillons 10. Donc, voilà, avec notification de la MDPH.
Olivier Blaise, je vais vous donner la parole. Donc après l'école, bah, il y a aussi l'insertion dans la vie professionnelle. Donc ça, le handicap et emploi, on en parlera cet après-midi. Mais l'insertion professionnelle, ça passe notamment bah, par le service civique. Et donc c'est le sujet sur lequel vous intervenez aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Donc vous connaissez tous le dispositif de volontariat en service civique. Le service civique, on n'est pas du tout dans une logique d'insertion ni de l'emploi. On est vraiment dans un dispositif d'engagement. En fait, ce qui est intéressant dans le service civique, dans le principe qui a été statué, d'ailleurs on a fêté les 15 ans du service civique il y a quelques semaines, c'est l'universalité du service civique et l'accessibilité. C'est-à-dire qu'il est accessible à tous les jeunes de 16 à 25 ans, 30 ans pour les personnes en situation de handicap. C'est vraiment important, c'est-à-dire que le service civique, c'est pour tous les jeunes, quel que soit leur diplôme, quel que soit leur parcours. Donc dans le pôle d'appui service civique, donc en 54, en Meurthe-et-Moselle, il y en a 25 en France. Il est hébergé par la Ligue de l'enseignement. Donc je travaille avec le SDGES et la DRAGES, les services de l'État, pour favoriser les offres d'inclusion pour les jeunes en situation de handicap. Donc ça a été développé depuis 2021. Donc moi, je travaille avec les structures médico-sociales qui me contactent parce qu'ils ont des jeunes qu'ils ont sensibilisé ou que mes collègues ont sensibilisé lors de réunions d'information. Moi, je vais dans les structures, je rencontre les jeunes et ensuite, moi, je suis chargé de faire du cousu main, de faciliter la création d'offres sur le territoire du 54 et de promouvoir le dispositif. C'est très difficile parce que les jeunes, on leur vend du rêve. On leur dit que les offres de mission au service civique, ça va permettre de résoudre plein de choses. Le service civique, ce n'est pas un emploi, ce n'est pas un bénévolat, ce n'est pas un stage. Ça, je le dis, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas simplement pour les personnes en situation de handicap. Ouais, c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, j'ai une jeune que j'ai suivie à l'école de vie autonome à l'OHS à Nancy, que je suivais depuis le mois de janvier. Elle a eu différentes propositions, il n'y en a qu'une qui a marché. C'était très long, c'était un parcours du combattant. En fait, c'est la création de réseaux. En fait, ce qui est long, c'est l'interconnaissance, en fait, et la rencontre d'acteurs, en fait. Et ça, ça met du temps, en fait. Et donc, il faut créer des dispositifs. Le dispositif sur lequel je travaille, le pôle d'appui, se termine en fin décembre. L'État a décidé de le supprimer. En fait, ce qui est difficile, c'est que c'est ça, c'est des coupes budgétaires qui cassent des expérimentations. Voilà, c'est...
Quel dommage, voilà. Parce que c'est c'est une belle mission, en tout cas, dans laquelle vous êtes investi.
Oui, en plus, le service civique, l'État diminue de 150 000 missions là, à la rentrée. Le service civique, c'est un bel engagement, c'est un bel hashtag sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Mais derrière, on baisse les moyens qu'il y a derrière, alors que c'est un dispositif qui a montré ses preuves sur les territoires.
Alors pour un jeune justement en situation de handicap qui voudrait s'engager dans un service civique, bon voilà, vous dites vous ça va s'arrêter à la fin de l'année. Vers quelle structure il peut se tourner?
En fait, il y a des structures d'intermédiation ou des structures qui ont un agrément de service civique. Il faut se tourner vers ces structures-là. Il faut aller sur le site servicecivique.gouv.fr ou il faut se tourner vers des structures d'intermédiation, la Ligue de l'enseignement, le CDOS, ULIS, certaines missions locales qui peuvent créer des services civiques sur les territoires. Mais demain, l'enjeu, en fait, il y aura toujours un besoin, il est là le besoin. Aujourd'hui, dans les structures médico-sociales, on ne connaît pas assez le dispositif de service civique. On le confond avec un dispositif d'insertion, alors que ce n'est pas un dispositif d'insertion. Donc il y a un vrai travail à faire au niveau de sensibilisation des professionnels et bien sûr un travail auprès des jeunes, en fait.
Olivier Maillet, je voulais vous redonner la parole sur la question de l'école inclusive. Où en est la France par rapport à ses voisins européens? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on avance bien, lentement mais sûrement? Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Bon, alors, on n'est pas les meilleurs élèves.
J'imagine.
Oui, on a été fondamentalement en retard. Après, on connaît aussi la France. La France est souvent très en retard. Puis, quand elle se met en marche, elle rattrape. Mais clairement, il y a toute une culture que nous n'avions pas. On n'a pas la même culture de l'enfant que les pays nordiques, par exemple. Et donc, ce rapport déjà à l'individualisation et à l'épanouissement de l'enfant, à la santé mentale, tout ça, c'est pas dans notre culture. On n'avait pas non plus une culture à l'anglo-saxonne qui est très décentralisée, alors que nous sommes très centralisés et très jacobins, comme vous le savez. Donc on était très en retard, et puis on s'appuie sur un réseau historique d'institutions extrêmement denses, qui représentent un nombre de professionnels extrêmement important, et avec lesquels on a une expertise incroyable, et au sens de souvent... des comparaisons internationales, et notamment de l'ONU, on nous reproche cette institutionnalisation-là, partant du principe que tous les établissements médico-sociaux ou toutes les institutions seraient par essence anti-inclusion et finalement nocives et toxiques. Alors voilà, nous on se bat pour défendre un autre modèle aujourd'hui, qui est celui du travail en partenariat pour faire continuer à exister et de montrer que on peut avoir des institutions sans pour autant enfermer des enfants dans des établissements et leur rendre l'accès à l'école de la République impossible. Donc on est dans un autre modèle, un modèle qui essaye de composer avec notre histoire, nos particularités, nos forces. Et donc effectivement, on a un chemin un peu particulier qui est sans doute plus long et plus particulier et plus hasardeux que certains autres pays. On pense notamment, on donne toujours l'exemple de l'Italie, qui s'appuie sur un important réseau d'enseignants spécialisés qui SM dans les écoles et font un appui et des ressources pour les établissements scolaires. Mais ils n'ont pas d'institution. Et moi, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des gens de la communauté de Bologne et qui me disaient « Mais c'est important, les institutions. Vous avez de la chance pour ceux pour qui, à un moment donné, l'école est quasiment impossible pour des raisons somatiques ou pour des raisons psychologiques. Vous avez la chance de pouvoir vous appuyer à un moment donné sur, on parlait de répit, des endroits comme ça qui peuvent permettre ça. » Alors maintenant, voilà, l'enjeu, c'est de combiner avec notre histoire, nos acquis, ce qu'on a su faire, et puis en même temps, de vraiment d'aller vers une inclusion toujours plus grande. Grosso modo, pouvoir le faire à chaque fois que c'est possible et le faire autre, mais quand c'est nécessaire, d'avoir la possibilité comme ça de créer et de s'appuyer encore sur un réseau dense de médico-social qui existe. Alors très clairement, pour nous, il y a quand même un cheminement qui est très clair. Il y a beaucoup de rapports qui viennent de sortir, aussi bien des affaires sociales que de l'éducation nationale, qui nous incitent véritablement à transformer nos institutions. La transformation de l'offre médico-sociale, c'est la transformation de l'école inclusive, c'est-à-dire encore accompagner toujours, mais d'abord, et c'est la philosophie de tout cela, dans le monde ordinaire, et puis de pallier et de compenser quand il y a besoin. Donc on est dans un nouveau paradigme, une logique inversée, et on y va à grands pas, et on voit, moi je pense qu'on peut être optimiste.
Vous souhaitiez réagir?
Oui, je pense que c'est effectivement important d'entendre aussi la parole des personnes qui sont concernées, et ça nourrit les personnes qui sont autour de la table et les gestionnaires de politiques publiques. On n'est pas dans un monde parfait, il y a des enjeux très importants, mais dans ce que vous dites, c'est aussi un peu ce qu'on a dit en termes d'enjeux de transformation de l'offre, de pouvoir poser des ressources expertes là où il y en a besoin sur le territoire. C'est de ça qu'il est question, et c'est vers ça qu'on va. Certes, le temps institutionnel est toujours beaucoup plus lent que le temps individuel, raison pour laquelle quand on prend des situations, et vous le savez monsieur Petit, en CDAPH, et qu'on sait qu'une réponse n'est pas disponible tout de suite, effectivement on propose un plan B, voire un plan C, pour permettre malgré tout d'avoir une réponse pas parfaite, mais tout de même une réponse. Donc les partenaires s'adaptent malgré tout, mais la perfection aujourd'hui elle n'existe pas. Simplement, ce qui est important, c'est le chemin, et on chemine à mon sens quand même vers quelque chose qui est plus ouvert, plus accessible, moins institutionnalisé, comme le demande l'ONU. On va vers ça, on va vers des ressources qui sont plus sur les territoires, qui passent moins par de l'administratif. Demain, moi, si vous me dites demain à la MDPH, vous ne posez pas les questions, mais moi je vous le dis, demain à la MDPH, c'est l'idéal, c'est il n'y en a plus, il n'y a plus besoin de compensation individuelle, parce que le réseau collectif local est suffisamment armé. Donc oui, on va vers ça. Oui, vous avez raison, c'est trop lent. Il y a des appels à projets cette année, côté département et côté agence régionale de santé, qui font évoluer les réponses, y compris sur les services dont vous parlez. Mais effectivement, la mise en œuvre de ces réponses-là, c'est toujours trop long pour les familles, c'est clair.
Olivier Blaise, vous vouliez rajouter une remarque, et puis il sera temps de conclure cette table ronde.
Je crois beaucoup à l'agilité, à l'adaptabilité des acteurs sur les territoires. Qu'il faut dépasser ces silos, ces logiques de carcan. Mais ça, il faut du temps, et il faut que ça se mette en place, et il faut que l'innovation se fasse sur les territoires. Et je comprends les personnes qui sont plus proches des problématiques, au plus près des personnes, qui sont dans des problématiques concrètes. Je voulais simplement revenir sur un point de détail. Tout à l'heure, j'ai dit que l'État supprimait 150 000 missions. Non, ce n'est pas 150 000, je le dis bien parce qu'on est à la préfecture. C'est 15 000 missions qui vont supprimer. Et hier, j'ai découvert qu'il y avait des enfants top. Hier, c'était dans un DITEP. Les enfants top, ce sont des enfants qui disent toujours non. Je ne connaissais pas du tout ça. Voilà, hier, j'ai vu une personne qui m'a sorti tous les dispositifs. Il était un peu perdu. Il me dit, moi, qu'est-ce que je fais avec ces jeunes? Il m'a sorti la carte de l'EDC, il m'a sorti la carte du revenu d'engagement d'émancipation jeune du département. En fait hier, l'accompagnant, il cherchait des moyens pour aider les jeunes qui suivent à pouvoir s'insérer, à pouvoir s'émanciper. Et je crois qu'il faut continuer à s'engager. Donc, continuer à s'engager, je crois que c'est un vœu que je ferai pour terminer.
C'était 20 ans de la loi handicap, quel bilan sur RCN, en partenariat avec la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités 54 et l'Agence régionale de santé Grand Est.